Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour partager tout à nouveau un message que nous allons dans un livre de la Bible, l'Évangile de Luc, ouvrir, dans le chapitre 18, une petite histoire tout à fait inédite, parce que c'est simplement Luc, l'évangéliste, qui rapporte cette parabole de Jésus, ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Jean, nous la trouvons, et c'est Luc qui nous fait part d'un enseignement que Jésus nous donne. Donc, je rappelle, chapitre 18, Évangile de Luc, et pour ceux qui sont familiarisés avec l'Écriture, vous allez tout de suite reconnaître de quoi il s'agit. Alors, je voudrais le préciser aussi avant de faire cette lecture du texte, c'est un message qui est dédié, qui est dirigé particulièrement à ceux qui attendent avec douleur, qui sont en souffrance, tout simplement une délivrance dans une situation d'injustice. Voilà, et ça, ce sont des faits qui sont tellement communs dans notre monde, qui ont toujours été finalement, à travers l'histoire des hommes, donc des situations d'injustice où il y a naturellement, à travers un personnage que nous allons commenter, en quelque sorte, un soupir d'espérance, d'espoir. Et nous allons naturellement la voir que la personne en question ne se tourne pas vers la terre, ou si peu, mais tout son espoir dans cette situation douloureuse qu'elle vit se tourne avant tout vers le ciel, vers Dieu. Donc, je lis ce passage. Jésus leur adressa, il s'adresse naturellement à ses disciples, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors Jésus dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Alors pendant longtemps, il refusa, le juge refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Voilà, c'est une belle illustration que Jésus nous donne, particulièrement et dirigée sur la prière exaucée du ciel. Et naturellement, il y a un drame dans cette histoire, comme dans beaucoup de choses d'ailleurs. Jésus se sert souvent des phénomènes humains, des catastrophes, de toutes sortes de choses, des états intérieurs des hommes, de leurs souffrances, de leurs peines, pour justement nous inculquer avec des mots simples, avec des idées toutes simples, les grandes vérités à caractère moral, et également spirituel. Alors, nous pourrons peut-être intituler notre réflexion tout simplement la prière exemplaire, parce qu'il y a un aboutissement. Il y a une souffrance au départ, une grande souffrance, nous allons le découvrir, et à la fin, il y a naturellement, dans une sorte de conclusion, une promesse que Dieu fait en disant « Mais je vais intervenir et je ne vous ferai pas attendre. » Alors, naturellement, cela met en jeu naturellement une grande vérité sur laquelle nous conclurons, c'est-à-dire la patience. Jusqu'où pouvons-nous attendre? Qu'est-ce que nous pouvons supporter? Et c'est vrai que nous, les hommes, on sait très bien que notre temps est compté Et surtout que quand tout va bien, c'est pas un problème, au contraire, pourvu que ça dure. Mais quand on est mal pris, quand la santé nous étreint, quand là il y a, pas la santé, mais l'absence de santé plutôt, je rectifie, une chose qui est certaine, ou des problèmes d'une manière ou d'une autre, de quelque nature que ce soit, alors à ce moment-là, le temps est long. Hein, les jours sont longs, les nuits sont longues, naturellement. Alors, patience exemplaire, on peut peut-être titrer cela. Donc, Jésus, je reviens sur le texte, il nous a dit qu'il a donné cette image. Et pour illustrer, eh bien, cet encouragement dirigé, cette exhortation, nous pourrions dire encouragement-exhortation à ses disciples, dont nous faisons partie encore aujourd'hui, 20 siècles après la prononciation de ces mots, pour montrer, pour démontrer, pour encourager, pour exhorter qu'il faut toujours prier. Alors, quand Jésus nous parle de toujours prier, c'est pas d'être à genoux, c'est pas d'être toujours dans une chapelle ou je ne sais quel lieu dédié au fait religieux, c'est pas ça. Mais d'être constamment dans cet état d'esprit où notre cœur, nos pensées, notre conscience est en relation avec Dieu. Il ne s'agit pas de gestuelle, il ne s'agit pas de sacrifice, il ne s'agit pas de mortification. Non, c'est tout simplement dans le temple où Jésus habite, c'est-à-dire dans notre cœur, de cette disponibilité, de cette disposition intérieure, où finalement, eh bien, nous sommes là, constamment, dans la pensée que Dieu met dans notre cœur, et cela nous aide considérablement lorsque nous traversons des moments difficiles, et à travers des soupirs, à travers parfois des pleurs, à travers des larmes, à travers toutes sortes de choses, ou à travers le contraire, c'est-à-dire lorsque eh bien, les choses sont mieux, sont meilleures, eh bien, de pouvoir aussi, c'est une prière, c'est la prière de louange, et c'est la prière d'action de grâce. Alors ça va dans les deux sens, naturellement. Et Jésus nous dit mais qu'il faut toujours prier, on comprend cette constance. Et il est dit, et ne point se relâcher. Et c'est bien dommage de commencer et de ne pas finir, de ne jamais finir. Ou tout simplement, eh bien là, dans l'accablement, dans l'impatience, parce que c'est véritablement le mot qui peut nous caractériser, de dire, eh bien voilà, Dieu n'existe pas, Dieu n'écoute pas, je ne suis pas dans sa volonté, j'ai certainement fait quelque chose de mal pour que, eh bien, il ne m'entende pas ou il ne veut pas m'entendre. Non, il ne faut pas se relâcher, parce que Dieu voit finalement notre détermination, il voit que nous voulons obtenir, et nous en parlerons dans un exemple d'ici quelques instants, que si nous nous attachons à cette perspective de l'exaucement que nous allons être exaucés, nous serons exaucés. Il y a cette belle promesse dans l'évangile de Matthieu, de Marc cette fois-ci, où il est dit, mais Jésus dit à ses disciples, mais tout ce que vous demanderez en priant, et moi j'y ajoute, en priant avec foi, croyez que vous l'avez reçu, alors croyez que vous l'avez reçu, c'est comme si vous l'aviez déjà en main, et vous le verrez s'accomplir. Mais naturellement, le drame pour nous, c'est que Dieu ne nous dit pas quand il va le faire et comment il va le faire. Ça, c'est le problème. Mais bon, toujours est-il qu'on reste sur cette pensée, il ne faut point se relâcher. Et voici la parabole. Donc, il y avait donc dans une ville quelconque un juge, donc un homme qui était élevé en dignité et qui avait un pouvoir extraordinaire, parce que parmi les grandes vertus, les vertus cardinales de notre monde, il y a la vérité, il y a la justice, il y a l'amour, il y a toutes sortes de choses, et lui était préposé finalement à la justice. Quelle responsabilité la justice ? C'est pas une petite affaire, parce que savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal, hein, qui dit la vérité, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a des codes, un code de justice, un code pénal, et puis tout le reste, lui il est fait pour sanctionner. Mais bon, il y a toutes sortes d'accompagnements hein, qui ont été le fruit de la pensée humaine par rapport à la justice, pour la déterminer. Hein, puis chaque pays, finalement, a sa conception, mais la justice est la justice de toute façon, et je dirais même que si nous n'avons pas besoin de code de justice, une chose c'est que Dieu a mis un code dans notre cœur, c'est notre conscience. Voilà. Alors naturellement, tout dépend de ce que nous faisons de notre conscience. Nous pouvons véritablement l'écouter, être à son là, être véritablement attentif, ou alors nous pouvons lui avoir coupé le cou et puis l'avoir étouffé. Hein. Alors naturellement, ça change les choses, surtout quand on est un juge. Puisque c'est pas pour lui-même, c'est pour les autres. Et c'est une drôle d'affaire. Alors, donc, ce juge, il nous est simplement donné deux caractères Il nous est dit qu'il ne craignait point Dieu. Alors on peut dire que ça devait être un incroyant. Je suppose que ça devait être un Israélite. Donc il était certainement bien placé à travers toutes les lois de l'Ancien Testament pour savoir ce qu'était la justice. Mais ce n'est pas parce qu'on a des bonnes lois que finalement tout le monde va se rallier à ça. Il y en a que ça arrange même justement de tordre le cou à la vérité et à ce qui est la lumière. Alors il ne craignait point Dieu. Ce n'était pas véritablement, eh bien là, c'était le cadet de ses soucis. Alors il y avait cet aspect, donc en haut, Dieu. Et puis il y avait ceux qui étaient en bas et qui étaient soumis à son jugement, à son verdict, et aussi aux peines qu'il pouvait infliger. Alors il y avait naturellement, il n'avait d'égard pour personne. C'est-à-dire qu'il se disait que ce soit l'un ou l'autre. Alors il avait peut-être d'égard comme peut-être, puisqu'il est appelé le juge unique. Donc s'il y a cet adjectif, c'est qu'il devait y avoir quelque chose en guise sous roche, dans sa manière d'être, pour lui personnellement, et puis également dans sa pratique de juge. Vous savez, l'argent, ça peut faire avancer les choses. Ça prend d'odeur, l'argent. Et quelquefois, ça respire des choses qui ne sont pas forcément toujours très bonnes et qui peuvent incliner dans un sens ou dans un autre. Mais malheureusement, là, il n'y avait pas grand-chose à gagner. Il y avait, nous dit Jésus, il y avait aussi dans cette ville, voilà, cet homme et cette femme qui se rencontrent. Il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire, et c'est là où nous allons découvrir finalement l'importance de la prière, et une veuve qui venait lui dire, c'est-à-dire à lui parler, elle venait frapper à sa porte, et elle lui disait, mais fais-moi justice de ma partie adverse, quoi de plus normal ? Quand on est juge et qu'on a un problème, quand on va voir un juge et qu'on a un problème, on s'attend à ce que véritablement il fasse son travail d'abord, et qu'il écoute, et qu'il puisse véritablement, on ne va pas lui demander peut-être une grande compassion, on ne va pas lui demander de la commisération, mais on va lui demander au moins qu'il écoute. Parce que c'est l'élémentaire, c'est le béapa de son état de juge. Alors elle dit, mais fais-moi justice de ma partie adverse. Lui, il avait tout, elle n'avait rien. Ah oui, parce qu'on va voir de quelle nature était son problème. Fais-moi donc justice de ma partie adverse. C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure pour nous rappeler qu'il faut toujours prier. Et elle va nous donner une grande leçon, cette femme. Et ne pas se relâcher. Parce que si on se relâche, on va perdre le bénéfice peut-être d'efforts que nous avons fait pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, et là, au dernier moment, et ça arrive dans le monde chrétien, ou quelquefois au dernier moment, alors que l'exaucement est près d'arriver, on lâche tout. C'est bien dommage. Parce que quand même, oui, c'est vraiment déconcertant. Alors, pendant longtemps, le juge refusa. C'est-à-dire qu'il ne lui a pas dit, moi je ne le ferai pas. Non, il ne lui répondait rien. Vous savez, il y a des gens... c'est significatif, vous allez les solliciter, vous leur donnez quelques conseils ou des choses comme ça, ils ne vont pas vous rabrouer et vous mettre la corde au cou, non, ils ne vont rien dire du tout. Alors pendant ce temps-là, vous attendez. Et c'est vraiment là l'épreuve de la patience, l'épreuve terrible. Pendant longtemps, il refusa, et moi je veux bien croire qu'il ne voulait pas, excusez-moi l'expression, c'est un peu trivial, mais s'enquiquiner avec une femme de si peu d'importance. Elle avait un problème, elle était veuve, elle n'avait pas de soutien naturel. Il ne nous est pas dit qu'elle avait des enfants, même si elle était veuve et qu'elle avait des enfants, elle avait des besoins. Et il s'agirait d'une partie adverse, peut-être il y avait des gens mal intentionnés qui avaient peut-être convoité sa maison, elle n'avait plus qu'un toit et on voulait le lui prendre, partie adverse, c'est ça ce que, voilà, et le juge est au milieu naturellement de tout ça. Et c'était si facile de dire, eh bien voilà, cette femme a besoin, elle a des enfants, elle est toute seule, elle n'a pas de ressources. Mais non. Et finalement, eh bien, lui, c'était une piètre affaire qui ne méritait pas eh bien, son attention. Et donc, il a refusé. Et voilà cette prière fidèle que nous allons déployer maintenant, que nous allons voir de la manière. Moi, elle me fait penser un peu à Jaïrus. Vous savez, Jaïrus, cet homme qui perd sa petite fille, parce que. Elle est malade et elle va mourir. Et là, tout le monde sur la route de Jaïrus va dire, mais c'est pas la peine de déranger Jésus, c'est pas la peine de faire ceci, de faire cela. Il y en a même qui vont venir pour lui dire, même ses serviteurs qui viendront au devant de Jaïrus, accompagnés de Jésus pour aller voir cette petite fille et la guérir. Mais elle va mourir en cours de route. Et puis il y en a qui lui diront, mais elle est morte ta fille, c'est pas la peine de déranger Jésus, ça ne sert plus à rien. Et nous voyons qu'à travers 5 étapes, Jaïrus va persévérer. Et là, il va pouvoir, d'ici quelque temps, lorsque Jésus rencontrera cette petite fille, priera pour elle, il va pouvoir la retrouver vivante. Et il n'a pas cédé d'un pouce, il a persévéré, il ne s'est pas relâché. Alors on va un peu plus loin. Il est dit ceci, donc, « Quoique je ne craigne pas Dieu, parce qu'il s'est dit en lui-même, donc il y avait une conscience certainement, mais il ne voulait pas donc aller plus loin. « Quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, c'est ce que nous avons lu déjà précédemment, néanmoins, nous dit le verset 5, « parce que cette femme, cette veuve, m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Certains, d'aucuns diront « me casser les pieds ». Enfin, d'une manière, c'est de la casse. Quoi qu'il en soit, hein, c'est véritablement se débarrasser d'une situation qui n'est pas facile. Donc, la question que nous pouvons nous poser, c'est cette confrontation dans notre vie de tous les jours, aujourd'hui, et comme cette femme, c'est la confrontation avec les injustices. C'est pas évident, hein. Tous les jours, nous avons des rapports judiciaires, hein, sur, on ne sait pas toujours très bien les tenants, les aboutissants, parce que bon, voilà, nous sommes des spectateurs ou des auditeurs de ces faits divers. Hein. Mais toujours est-il que c'est véritablement quelque chose de terrible. On voit, hein, ça finit quelquefois à travers des drames, hein, quand il y a des injustices ou qu'il y a des incompréhensions. Hein. Confrontation avec les injustices, et quel est le traitement de ce qui est injuste, comment pouvons-nous le faire? C'est ce que nous avons lu ensemble. Hein, donc, à travers ce juge, à travers cette femme, et il y a l'arme que cette pauvre veuve dispose. Elle n'a pas un code civil dans sa poche ou dans avec elle. Non, elle a quelque chose qui n'est pas de la terre, mais quelque chose qui est beaucoup plus puissant, c'est la prière. Et nous voyons que l'un, le juge, doit s'occuper des affaires de la terre avec la terre, avec les moyens de la terre. Et elle, comme elle n'a pas, finalement, aucun moyen sur la terre, elle va chercher au ciel. Donc, la prière. Et elle ira beaucoup plus loin parce que, comme nous l'avons lu, hein, elle insistait, elle importunait le personnage dont nous avons parlé à travers des supplications. Vous savez que la supplication, c'est encore une autre dimension. Hein. Jésus nous l'enseigne, d'ailleurs, je crois que c'est dans le Sermon sur la montagne, « Demandez et on vous donnera ». Cherchez et vous trouverez, et frappez, alors frappez, attention, hein, ce n'est pas les points, hein, frappez, insistez, persévérez sans vous relâcher, et là vous recevrez, vous trouverez. Et je crois qu'il y a là un bel exemple de la supplication, parce que ça ne s'est pas passé en une heure, ça ne s'est pas passé en une journée, ça ne s'est pas passé là en peut-être une semaine, mais pendant ce temps-là, il fallait qu'elle vive, la pauvre. Hein ? Fallait qu'elle puisse subsister. Et quand vous voyez que, ben voilà, vous avez droit à votre droit, vous avez droit à ce qui est normal, naturel, et que vous ne pouvez pas l'obtenir, c'est quelque chose de terrible. Pour ceux qui sont passés par la justice, ceux qui ont quelquefois mis les pieds dans un tribunal, quel que soit, eh bien, dans quelle chambre judiciaire ils ont été traités, ou ils ont été, leur cas a été examiné, c'est jamais drôle, hein. Franchement, hein, c'est jamais facile. Et nous avons naturellement, eh bien, à travers les versets que nous avons lus, eh bien, tout simplement les avantages de l'insistance. Et je le relis parce que c'est intéressant. Il a refusé pendant longtemps. Et à un moment donné, il s'est mis à réfléchir et il s'est dit, mais moi je ne crains pas Dieu, je ne crains personne, hein, j'ai pas peur, je suis sûr de mes affaires. Mais parce qu'elle vient, et ça c'est d'insistance, parce qu'elle vient, cette femme, eh bien, m'importuner. Elle vient me déranger pour des broutilles. Mais ce n'était pas une broutille pour la pauvre veuve. C'était vraiment quelque chose. C'était pas. Elle ne demandait pas le superflu, elle demandait le nécessaire, tout simplement. Et c'était quelque chose d'abstrait, parce qu'elle ne lui demandait pas du pain. Elle lui demandait les moyens de pouvoir, eh bien, avoir ses droits pour pouvoir ensuite vivre, vivre, manger. Hein, et ça ne tenait pas à la nature du boulanger ou du boulanger à laquelle elle ne pouvait plus acheter son pain, mais ça tenait à une décision de justice. Et ça, c'est très révoltant quand vous savez que vous êtes dans votre bon droit et qu'on vous le refuse. Ben, c'est une forme de mise à mort, hein, quelque part. Alors, bon, je ne sais pas quelle était la valeur de ce qu'elle prétendait avoir, mais toujours est-il que elle va nous donner la leçon de l'avantage de l'insistance. Et voilà maintenant le verdict divin, et il est très intéressant parce que Dieu va prendre la parole. Le juge dit, elle me casse la tête. Moi, j'ai tant d'affaires avec des choses plus intéressantes, avec des affaires qui sont certainement eh bien, beaucoup plus importantes que bah, voilà, une table avec du pain dessus. Hein. Et le verdict est celui-ci. Le Seigneur ajouta ces paroles. Entendez ce que dit le juge inique. C'est-à-dire qu'il va faire parler le juge à ce moment-là. Comprenez la leçon de ce juge eh bien, inique. Et nous voyons que là, ça va véritablement clore, hein, parce que les choses de anormal, les choses qui sont dans là, et bien quelque chose dans le désordre, et bien Dieu, par une parole, va les remettre en ordre. C'est comme la santé, c'est pareil. Hein. La maladie, c'est un désordre. Et puis il y en a bien d'autres, qu'elles soient maladies physiques, morales, et puis peut-être les crises spirituelles. Ce sont des choses qui sont, voilà, normalement, voilà, anormales. Mais Dieu va les remettre en ordre. Et le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, parce que c'est moi qui vais donner la conclusion, dit Dieu. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Et là, nous avons dans ce verdict divin, je viens de le lire, le soutien des promesses ou de la promesse de Dieu. Dieu ne nous laisse jamais sans parole. Nous croyons en lui, nous ne le voyons pas, Dieu est invisible, mais néanmoins, il est là. Il est là dans notre cœur. Il est là et il parle à notre conscience. Il est là pour recueillir nos larmes, nos cris, nos souffrances. Et il est là pour nous répondre à travers sa parole. Sa parole, c'est ce que j'ai entre les mains. C'est la Bible. Et vous avez des livres qui sont dédiés véritablement à la promesse. Moi, quand je lis les livres poétiques, hein, dans l'Ancien Testament, les psaumes, et puis bien d'autres, hein, les livres prophétiques. Moi, je pense à Ésaïe qui est, excusez-moi l'expression, mais bourré de promesses d'espérance, hein, qui stimule notre foi, qui nous donne finalement eh bien, de pouvoir nous rapprocher en toute confiance avec Dieu en disant « Mais je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, parce que je suis Dieu, tu ne me vois pas, mais je suis là. » C'est pour tous ceux qui pleurent en disant « Mais Dieu n'est pas là, je ne sais plus où j'en suis, parce que j'attends depuis si longtemps et je ne suis toujours pas exaucé. » Alors nous avons le soutien des paroles, des promesses, et je voudrais quand même le relire, parce que j'insiste, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Parce que cette femme était mise à part, hein, c'était une pauvre israélite, hein, déshéritée probablement, parce que ceux qui crient à lui jour et nuit, eh bien il ne tardera pas. Avec cette petite nuance, il leur fera promptement justice. Promptement, vite, rapidement, sans retard. Et ça, c'est important. Moi, je crois que nous avons l'exemple de ce Dieu qui est parfait, ce Dieu qui est infini, ce Dieu qui sait tout, quelquefois qui garde le silence, et ce Dieu qui agit. Et nous voyons que dans cette dimension-là, eh bien, nous ne pouvons pas faire autrement que de faire comme Dieu fait. C'est-à-dire que quand quelqu'un appelle, quand quelqu'un a besoin, quand quelqu'un souffre, d'une manière ou d'une autre, il ne faut pas le faire attendre. Non. Ce n'est pas pour ça qu'il faut le prendre et puis l'environner, l'étouffer, etc., etc. Mais il y a une chose, c'est que si nous ne pouvons pas faire autre chose, en tous les cas, nous pouvons nous associer avec lui pour prier. Parce que quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui est isolé, quelqu'un qui n'a que sa souffrance, qui n'a pas de vis-à-vis, eh bien, je pense que, et nous on l'a constaté dans le pastorat, que quelquefois, hein, et pas seulement des chrétiens, des gens qui finalement ne connaissaient pas le Seigneur et leur proposaient peut-être, même sur leur lit de mort, hein, eh bien de dire, mais on va prier pour vous. Et là, de voir qu'il y a là comme un rayonnement sur leur visage. Parce que la prière, c'est plus que le pain. La prière, c'est plus que la nourriture, c'est plus que l'argent, c'est plus que tout la prière. Pour ceux, naturellement, qui sont disposés. Parce qu'il n'est pas question de prier pour ceux qui disent « Non, non, je ne veux pas. Hein. » Parce qu'il y en a qui l'ont fait aussi, et puis il y en a qui le font encore. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire quand il nous dit « Mais Dieu va promptement répondre. » Et nous ne pouvons pas finalement dire « Ton problème ne m'intéresse pas. » Alors, je crois que tous ceux qui servent le Seigneur, moi je pense à tous ceux qui sont eh bien, là dans l'œuvre de Dieu, d'une manière ou d'une autre, et qui quelque part délaissent, ou tiennent pour pas grand-chose, l'assistance des autres, les visites, etc., etc., eh bien, moi, je me dis qu'il leur manque quelque chose. Ah oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Et peut-être qu'un jour, ils auront besoin, eux, qu'on les assiste, et là, ils ne trouveront personne. Eh oui, ne faites pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on fasse. Ça, c'est Jésus qui le dit. Et je crois qu'il y a une grande vérité sur laquelle on reviendra probablement à travers un message, parce que j'ai ça un petit peu dans mes tiroirs. Parce que c'est vrai que c'est une leçon comportementale chrétienne tellement importante. Surtout, vous aimez que les autres fassent quelque chose pour vous? Eh bien, faites-le pour eux aussi. Parce que peut-être, là, c'est d'une grande importance pour celui qui pleure. Voilà, tout simplement. Et cette consolation, ne serait-ce que s'associer à travers, avec eux, dans la prière. Tardera-t-il à leur égard? Ben moi, la réponse que je la donne, non. Dieu ne tardera pas. Bien qu'il nous semble que finalement, il soit peut-être parti au bord de la mer ou en montagne, faire de l'escalade. Je parle de Dieu, là. Et qu'il n'a pas le temps de s'occuper de nous. Non, c'est faux. Dieu peut être partout dans le monde. Il est partout dans l'univers. Et moi, je crois que, toute petite fourmi que nous sommes, eh bien, nous ne sommes jamais oubliés du Seigneur. Parce qu'il voit bien ce qu'il y a au fond de notre cœur et nos besoins. Donc, le soutien des promesses de Dieu, c'est quelque chose de formidable. Et Jésus va conclure, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ce qu'il dit, parce qu'apparemment, ça semble quelque chose qui vient comme un cheveu sur la soupe. On vient de parler de la prière, on vient de parler d'une détresse humaine, on vient de parler de la dureté d'un cœur de ce juge, on vient de parler de l'insistance de cette femme qui tient le coup et qui ne relâche pas. Et puis là, il est question du retour de Jésus. C'est curieux, ça. Et Jésus dit en substance, « Mais quand le Fils de l'homme reviendra, puisqu'il nous en fait la promesse dans Jean chapitre 8, me semble-t-il, ou 14 plutôt, je me remets les pensées un petit peu en place, mais quand le Fils de l'homme, le Messie pour les Juifs, le Sauveur pour tous les hommes, reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ? » Et là, c'est là justement, il faut faire la nuance. La prière, dans le monde, mis à part les incroyants, les athées, enfin bon, tout ce que vous voudrez, tous ces gens qui sont un peu comme le juge, qui ne se mettent pas en peine de Dieu, Dieu est complètement absent dans l'existence, mais moi je crois qu'il y a des millions, et voire des milliards, de gens dans le monde, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient de religions diverses chrétiennes, qu'ils soient de toutes sortes de choses, de différentes appellations, dénominations, et tout ce que vous voulez, les hommes prient. Ceux qui pensent qu'il y a, là, eh bien, au-dessus de nos têtes, dans le ciel, un être. Un être que nous appelons Dieu, que nous appelons notre Père. Ça, c'est la révélation de l'Évangile. Et, quelque part, c'est pas seulement le mot « foi ». Il y a quelque chose qui complète ce mot « foi ». Parce que cela nous montre, à travers cette petite conclusion, c'est le climat spirituel de la fin des temps. C'est-à-dire pour nous, on peut dire que nous sommes à la fin des temps. D'ailleurs, tous les signes précurseurs sont là et les clignotants s'allument de tous les côtés. Même le ciel est embrasé quelquefois avec des orages terribles. Alors on a chaud et puis après on reçoit des glaçons sur la tête. Enfin, toutes sortes de choses, on passe du chaud au froid. Enfin, peu importe, ça c'est la nature. Alors, la question que Jésus soulève, priera-t-on encore et comment allons-nous prier à la fin des temps? Jésus, au début de l'Évangile, nous donne des exemples de prière. Cette femme nous parle d'un exemple extraordinaire, la patience exemplaire de la prière. Elle nous en parle, nous avons cela. Alors, je répète, priera-t-on encore? Et comment priera-t-on? La nature de la prière à la fin des temps. Et qui prierons-nous? Ça faut savoir. Parce qu'un musulman ne prie pas le même Dieu qu'un bouddhiste, qu'un hindouiste, qu'un chrétien, même les chrétiens de différentes appellations, dans notre christianisme contemporain, protestants, catholiques, orthodoxes, les juifs, voilà. Ça, ce sont des questions à poser. Et la grande réponse que Jésus veut nous suscite actuellement, c'est la prière, certes, mais la prière de la foi. C'est ce que nous avons vu ce matin. La prière de la foi. Il y a des prières de croyance, de toutes sortes de croyances, de toutes sortes d'orientations, avec des dieux, avec des demi-dieux, avec une kyrielle finalement, eh bien, de saints, de saintes que nous pouvons invoquer. Non, Dans le texte, il est question de Dieu, et pas un Dieu impersonnel, ce Dieu avec lequel nous avons une relation. Et la pauvre femme israélite savait qui était le Dieu d'Israël. Ça, c'est sûr. Comme nous, en tant que chrétiens de l'Évangile, nous savons qui est Jésus-Christ. Et c'est à travers le nom de Jésus. D'ailleurs, Jésus va nous le dire, et il nous le rappellera, il dira, « Mais tout ce que vous demanderez à mon Père, comme cette femme le fait, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous l'accordera. » Moi, je ne sais pas, je ne complique pas la vie, hein. Et je ne veux pas me compliquer la vie avec des choses, des méandres, toutes sortes de labyrinthes qui s'ouvrent devant moi à travers la théologie, les théologies des hommes, les philosophies religieuses. Non. Vous demandez en mon nom à mon Père et il vous l'accordera parce que c'est en mon nom que vous l'avez demandé. Et moi, je vais vous exaucer. Je viendrai avec l'exaucement. Et ça, c'est important. Et nous avons là la valeur, tout simplement, des principes et l'évidence des leçons que Jésus nous donne. Et je prends par exemple Genèse, je n'ouvre pas le texte, mais je l'ai en mémoire, au chapitre 32, au verset 26, il est souligné deux choses, la prière de la foi, comme nous l'avons lu dans notre texte, à travers la perspicacité de savoir qui l'on prie. À savoir que nous prions de telle manière parce que Dieu nous a fait des promesses de telle façon. Et puis également la persévérance, sans vous relâcher. Et nous avons l'exemple de Jacob, qui a toujours cherché une bénédiction de Dieu. Il voulait être béni à tout prix. Hein, c'était une frénésie chez lui. Mais il n'a pas fait toujours ce qu'il fallait. Il a fait des entourloupettes dans sa famille. Il a trompé son père, il a trompé son frère, pour avoir la bénédiction de Dieu. Lui, c'était viscéral. Mais la manière dont il s'y prenait, dont il s'y est pris, je peux vous dire qu'il y a eu du désordre. Hein. Ça a été véritablement une catastrophe, jusqu'au jour où là, il était dans une grande détresse. Il nous est dit qu'à un moment donné, il s'est retrouvé seul. Et souvent, il faut se retrouver seul pour que les bruits tout autour de nous fassent silence et que nous sommes véritablement seuls à écouter Dieu ce qu'il va nous dire. Et c'est ce qui s'est passé au torrent de Jabbok. Et à un moment donné, il s'est trouvé confronté avec un être surnaturel, ange de Dieu probablement, qui est présenté sous la forme d'un homme, qui lutte avec Jacob. Et là, nous voyons que cet homme qui lutte avec Jacob va blesser à la hanche, Jacob, il va tomber Jacob, et il va boiter toute sa vie après. Mais pour lui rappeler que ce n'est pas avec une force humaine que nous remportons des victoires, ce n'est pas avec une force humaine que nous arrachons à Dieu des exaucements, mais c'est lorsque nous mourons à nous-mêmes, comme Jacob en a fait l'expérience à travers sa blessure, et il dira à cet homme qui lutte contre lui, « Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. » Et bien c'est ce que Dieu veut entendre. « Seigneur, je ne lâche pas prise. » J'ai des problèmes, j'ai des difficultés, je souffre. Hein, c'est peut-être pas de la même nature que cette veuve. Mais une chose qui est certaine, que pour, on n'a pas besoin d'en inventer des problèmes, on en a suffisamment. Hein. Pas la peine de s'imaginer et de dire, tiens, mais je m'ennuie, j'aimerais bien avoir quelques problèmes. Alors si vous en voulez, c'est facile. Hein. Pas de problème, ça vous tombe sur la terre et c'est pas la peine de les rechercher. Mais toujours est-il que la leçon que nous avons à travers toute la Bible, dans cette parole de Jésus, de Jacob, pardon, c'est que, quelque part, il a donné les mots qu'il fallait, la prière de la foi. « Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. Je ne lâcherai pas prise. Je ne vais pas me relâcher. Je tiendrai le coup. » Et puis je termine avec Jacques. Jacques, l'apôtre, dans son épître, où il est question, donc au chapitre 1er, au verset 3, non seulement de la perspicacité, de la persévérance que nous avons dit par rapport à Jacob, mais en ce qui concerne la leçon que Jacques nous donne, c'est la patience éprouvée. Ouh, Seigneur, oui, je t'ai demandé ça il y a 3 jours. C'est long, 3 jours. Je te l'ai demandé il y a plusieurs semaines. Tu t'en souviens? C'est long, 3 semaines. Ou plusieurs. Ça fait peut-être plus d'un an, 2 ans que je te demande quelque chose que j'ai à cœur. Certains diront, mais ça fait 20 ans que je te prie pour ceci et cela. Et apparemment, je n'ai pas vu quelque chose arriver. Alors, la patience éprouvée, qui nous amène à une dernière question sur laquelle je termine. Qu'est-ce que la pleine confiance en Dieu qui reçoit l'exaucement? Eh bien, Jacques va le montrer qu'il y a une leçon de vie derrière. Si Dieu nous fait attendre, si Dieu, quelquefois, permet des épreuves, comme la pauvre veuve, qui n'avait plus rien, eh bien, c'est parce que Dieu a non seulement un apprentissage à nous donner à travers la foi, la prière de la foi, mais à travers également une transformation de notre vie, comme par exemple pour Jacob. Il est dit ceci, réjouissez-vous. Ah ben moi je veux bien, pas de problème, je me réjouis. Mais attendez la suite, ça nous fait moins rire. Hein. Lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves et de tentations, hein, oui, c'est ça, c'est pas drôle, hein. On n'a pas besoin de les demander naturellement. Le texte nous dit ceci, estimez-vous heureux. Ah bon ? Ben moi je pensais que tout allait bien, moi, j'ai toujours conçu que l'évangile c'était à l'eau de rose, hein, qu'à partir du moment où je me convertissais, je n'aurais plus aucun problème dans ma vie. Hein. Tout serait naturellement eh bien, un idéal d'existence. Alors estimez-vous heureux. Vous comprenez le mot estimez-vous ? Estimez-vous. Faites le bilan vous-même et de dire que quelque part, je ne suis peut-être pas heureux parce que j'ai des tentations et j'ai des. Mais il y en a qui sont pires que moi. Alors, estimer, c'est justement comparer, quelque part. Estimez-vous heureux, nous dit le texte, elles sont pour vous, tiens, l'occasion d'accéder à une joie parfaite. Ben, moi, ça ne va pas tout à fait dans ma conception des choses. Parce qu'une épreuve, ça me donne plutôt envie de pleurer qu'envie de me réjouir. Hein. Et pourtant, c'est écrit. Et je poursuis. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve, parce que c'est cela de ce dont il s'agit. Et si elle tient bon, votre foi, hein, pas l'épreuve, hein, c'est votre foi dans l'épreuve, alors elle va développer votre endurance. Tiens, ça me semble quelque part, ça ressemble quelque part à la patience. Hein. Votre endurance, je vais devenir plus ferme, je vais devenir plus déterminé, je vais devenir plus solide en quelque sorte. Hein. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, et ça c'est le but, grandir, se développer spirituellement, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance ne se relâche. C'est-à-dire que vous allez aller jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout, et que votre patience se manifeste dans toute votre conduite, sans grincer des dents, sans vouloir aux autres, sans véritablement être rempli d'amertume et d'énervement, parce que vous avez un problème. Méfie-toi, hein, parce que la souffrance te prédispose à faire le mal, nous dit le livre de Job. Hein. Et je relis ça. Hein. Que votre patience se manifeste dans toute votre conduite, à travers les fruits de l'esprit, l'amour, la bienveillance, et toutes sortes de choses bonnes comme ça, et s'accompagne d'actes parfaits. C'est pas parce que vous traversez l'épreuve que vous êtes méchant avec les autres. C'est pas parce que vous traversez l'épreuve que finalement vous devez être irascible. Hein, voilà, et prendre des décisions qui finalement eh bien, pourrissent la vie des autres. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Vous deviendrez irréprochable. Oh là, là c'est quelque chose, il y a du chemin à faire. Hein. Et il nous est dit, c'est beau ça, il ne vous manquera rien. Il ne vous manquera rien. Merci pour cette pauvre veuve. Merci parce qu'elle nous montre le chemin. Elle nous ouvre la porte hein, alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Hein, et je voudrais vous recommander au Seigneur, simplement, on peut prier simplement, et moi je voudrais simplement, avant de prier, vous dire que vous pouvez nous rejoindre sur notre site Bible Espoir, avec différents positionnements, tels que la cale aux 1000 trésors, que eh bien, l'écriture en majuscule, que YouTube, vous pouvez nous retrouver sur vidéo, vous pouvez nous retrouver également sur d'autres portails, hein, je pense à Trésor sonore et puis bien d'autres encore, hein, parce que nous avons démultiplié et vous avez de quoi faire. Si vous voulez passer vos jours et vos nuits, vous avez de quoi faire. Il y a plus de, en vidéo, en audio et en écriture, en pages à imprimer, il y a plus de 800 textes qui sont à votre disposition. Alors, on va simplement eh bien, remercier le Seigneur et prier pour vous, pour ceux qui traversaient des moments difficiles et particulièrement confrontés avec les injustices. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Bénis les amis qui l'entendent. Peut-être certains d'entre eux sont confrontés avec des choses difficiles qui les surpassent, qui les dépassent, qui les submergent. Alors accorde-leur ta grâce et qu'ils puissent, en toute simplicité de vie et de cœur hein, et de foi, tout simplement se saisir que tu es celui, leur Dieu qui délivre. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous savons que la seule chose qui te fait agir, c'est véritablement la compassion et l'amour pour ceux qui sont souffrants et qui se sentent véritablement perdus. Merci Jésus. Amen.